Du 13 au 19 mars aura lieu le festival Un printemps en Asie. À l'initiative de 8 étudiants de Sciences Po Rennes en master culture et industrie créative, il vise à promouvoir le cinéma asiatique et sa culture. Aujourd'hui avec nous pour en parler, Lucas Thiebaud et Antoine Marais. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc dans votre présentation du festival, vous dites souhaiter mettre à l'honneur les cinémas d'Asie, trop souvent absents des salles obscures. Qu'est-ce qui vous a poussé vous-même à vous intéresser au cinéma asiatique ?
On est tous revenus en fait d'une année à l'étranger, on est partis un peu partout et certains de nos membres sont partis au Japon, en Chine, ont pu visiter ces pays-là, se sont rendus compte qu'eux-mêmes ne connaissaient pas tout à fait bien ce genre de, le genre de cinéma qui passait là-bas. C'est mal le cinéma chinois est mal distribué en France et c'est aussi de ça parce qu'on est dans des masters qui s'intéressent aux questions culturelles. On a eu l'occasion d'organiser effectivement un festival à propos de ça, et c'est surtout ça qui nous a intéressé, puisqu'on n'était pas en Chine, ouais. Lucas et moi.
Nous, on était en Bolivie, en Lituanie, donc c'est très lié à la Chine, hein, effectivement, comme vous voulez. Mais ouais, voilà, il a tout dit.
Vous avez choisi du coup la Chine comme première édition du festival. Il vise donc à faire découvrir les nombreux enjeux du cinéma sinophone. Est-ce que vous pouvez déjà nous en présenter quelques-uns, quelques films
Ouais, alors juste pour rectifier, tu as dit la Chine, on sera plus sur le monde chinois, donc on va partir sur la Chine, mais ça va aussi, il va y avoir aussi Taïwan.
D'accord.
Et qui n'est pas forcément la Chine, parce que c'est quand même un peu tendu. Et Hong Kong, qui est un cinéma aussi particulier, parce que ça a été longtemps indépendant de la Chine et sous domination britannique. Et il y a eu toute une. Le cinéma hongkongais est assez connu parce que assez populaire, avec tous les films de kung-fu, notamment les films de Bruce Lee, de Jackie Chan. Donc c'est une part importante quand même du cinéma sinophone, on va dire.
Et du coup, on s'est retrouvé avec une programmation. Il me semble que c'est trois films chinois, deux films hongkongais et trois films taïwanais.
3-3-3.
Et donc voilà, c'est assez divers. Et c'est des cinémas qui sont certes très différents, mais qui se retrouvent sur certaines thématiques et sur certaines conceptions de voir beaucoup plus calme. C'est un cinéma moins parlant, enfin moins dialogué. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc on a un extrait du film La Fureur de Vaincre. Et donc, comme vous l'avez dit, votre programmation, donc du coup, c'est pas uniquement la Chine, elle est tirée de trois zones, la Chine occidentale, Taïwan et donc Hong Kong. Pourquoi le choix de ces trois zones déjà? Et comment vous expliquez justement les similarités entre ces trois cinémas différents?
Alors là, ça tombe, c'est drôle parce que finalement, les films avec Bruce Lee, qui sont des films hongkongais, qui se passent plutôt en Chine, sont en fait bien bien différents des autres. À Hong Kong, on s'est retrouvé avec une sorte de culture du film d'art martial, du film de combat, de kung-fu, ouais. qui est du coup très populaire et plus diffusable en France. Enfin, en tout cas, peut-être pas au cinéma, mais à la TV ou bien dans des circuits plus proches du grand public. Mais effectivement, alors les similarités qu'on retrouve, c'est vraiment une sorte de philosophie, finalement un peu cliché, de calme au cinéma, sage, un cinéma plus sage.
Après, je pense aussi qu'il y a quand même une influence qui serait plus asiatique, c'est-à-dire que même quand on regarde le cinéma chinois, je pense à des réalisateurs comme Hu Xiaoxin, ça a aussi influencé par beaucoup d'autres cinéastes asiatiques, notamment je pense à Ozu, le japonais, qui par son rythme et par son cadrage a beaucoup beaucoup influencé d'autres réalisateurs comme notamment celui-ci. Ouais.
Donc le cinéma sinophone aussi, il a connu un peu la censure, les difficultés politiques. Ouais. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en fait?
Bah alors c'est vrai que pour le cinéma chinois, vraiment produit en Chine continentale, on n'aborde pas encore vraiment des sujets vraiment de société forts. La question des minorités est peu abordée, ou alors par des gens issus de minorités tibétaines, par exemple, entre autres, ouais. Ouïghours aussi. Pour effectivement ce qui est de... ce qui est des cinémas taïwanais et hongkongais, on n'a pas choisi, nous, de films qui parlaient spécialement de sujets politiques importants, mais c'est en tout cas plus facile à aborder, mais c'est vrai que c'est pas des... les scénaristes et les réalisateurs s'attachent pas forcément à ce genre de sujet, tout simplement parce que c'est pas une habitude, pas une culture, ils ont pas forcément le réflexe de le faire, je pense.
Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder du côté de la production, c'est qu'on se rend compte en fait que les films qui ont des sujets beaucoup plus politiques chinois, qui évoquent justement des... Je pense à par exemple le réalisateur Wang Bing, qui a fait un film dernièrement qui s'appelait Les âmes mortes, sur un camp de rééducation sur la, qui était dans les années...
Dans les années 50, il
ouais, me semble. C'est ça.
Un camp de rééducation instauré du coup sous le régime communiste, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et bah, c'était un film au final qui a été produit par des
Français,
des Français, par Arte. En fait. Et voilà, c'était un film qui n'est pas du tout montré en Chine. Donc c'est ça, c'est en fait les films les plus politiques sont.
Et puis c'est pas c'est pas un film de fiction, c'est un documentaire.
C'est un documentaire.
Donc, est-ce qu'il a été facilement diffusé justement dans le monde?
Il a été assez primé en fait. Il est passé à Rennes de manière assez exceptionnelle, il me semble, au TNB en novembre dernier, en présence du réalisateur d'ailleurs. Très intéressant. Mais non, bah, de toute façon, il a la diffusion qu'ont des films documentaires, qu'ont des films très longs, 3 heures, très durs. Ouais, non, c'est pas. Finalement, politiquement, le cinéma chinois n'est pas encore engagé comme pourrait l'être, mettons, ouais, d'autres cinémas, cinéma coréen, cinéma japonais.
Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça, quand il y a un film qui marche, un film chinois qui marche en Occident, c'est rarement un film qui va marcher aussi en Chine, quoi. C'est pas du tout les mêmes genres de films qui marchent ici et là-bas, quoi.
Est-ce que c'est ce que veut aussi le gouvernement chinois quand ils produisent un film chinois, justement, rester peut-être dans les clichés, ne pas donner en fait une image positive, on va dire, de leur pays.
Les grosses productions sino-chinoises, on va dire, mettons par exemple, on connaît bien Tigre et Dragon, pardon.
Par exemple.
Et elles vont présenter une histoire un peu romantisée de la Chine, mais avec une portée sociale vraiment très, très négligeable, quoi. Ouais. Effectivement, oui, le cinéma chinois est encore assez, peut-être pas censuré, mais et pas encore assez mature pour aborder des sujets politiques forts.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, par exemple, un film qui vient de sortir, je crois, en Chine, qui s'appelle The Wandering Earth, si je crois pas. Il y avait un article dans Le Monde hier là-dessus, c'est pour ça que j'y pense. Et ça a fait déjà, en 3 semaines, 80 millions d'entrées en Chine. Et c'est le premier film de SF réel dans l'espace chinois. Et donc c'est un scénario complètement hallucinant, avec un gars qui sauve l'humanité.
Ça a une portée propagandiste aussi importante, parce qu'avec les programmes spatiaux chinois qui se développent énormément, voilà.
Ouais. C'est intéressant.
Est-ce qu'on sait s'il va avoir une vie à l'international?
Ouais, et bah justement, en fait, il a été racheté par Netflix. Et donc il devrait être Netflix qui va le diffuser en 24 langues, je crois. Donc c'est vrai, ça devrait quand même...
Effectivement, c'est un marché qui explose, oui. Voilà.
Ouais.
Est-ce que le marché cinématographique chinois, en fait, il peut se passer de l'international? Est-ce qu'au final, 7 millions, enfin, je vais peut-être pas avancer sur le nombre de personnes en Chine, est-ce qu'on peut se passer de l'international pour les Chinois?
Pour les Chinois, je pense que pour les grosses productions, oui. Pour les cinémas d'auteur, difficilement. Wong Kar-wai, une bonne partie de sa popularité vient aussi d'Europe, voilà.
C'est le premier d'ailleurs cinéaste
à s'exporter, ouais.
Asiatique, par exemple, à être président du Festival de Cannes, ce qui est quand même pas...
Et puis on a l'exemple aussi de plusieurs réalisateurs taïwanais et hongkongais qui sont partis aux États-Unis faire une carrière. Ang Lee, le premier à le faire, ensuite les hongkongais avec John Woo, Johnny To, bien sûr.
Jean-Claude Van Damme qui a été les chercher.
Jean-Claude Van Damme qui a été les chercher, voilà, c'est ça.
On lui doit bien ça, franchement. On oublie les bienfaits qu'a fait Jean-Claude.
Ça a permis des films vraiment intéressants.
Monde, on l'oublie trop souvent.
On va revenir du coup sur le festival.
Ouais, du coup, outre les films présentés pendant le festival, il y a aussi deux conférences que vous avez mis en place. Il y a une première le 14 mars qui va être sur le thème « Femmes, féminisme et cinéma chinois ». Et une seconde le 17 mars intitulée « La Chine, les Chinois et vues par les cinémas d'ailleurs ». Est-ce qu'il y avait une volonté d'intégrer des problématiques actuelles dans votre festival avec le cinéma chinois, tel que par exemple le féminisme?
Oui, bah voilà, la représentation des femmes. On a la chance d'avoir la participation d'une doctorante de Lyon 3 qui s'appelle Bérénice Reynaud, qui effectivement est spécialiste de ces questions depuis quasiment le début de ses travaux universitaires. Et effectivement, on a essayé de s'intéresser à ça. On a cherché des films en correspondance. Elle nous en a proposé quelques-uns, notamment un qui s'appelait... Ça avait rapport avec une fleur, mais c'était un film qui n'a jamais été distribué en France, jamais de DVD. Pas... En fait, c'est un peu l'exemple du problème de diffusion générale des films, de ces films un peu cinéma d'auteur en Europe. C'est que là, c'était un film qui avait été diffusé, par exemple, qu'en Espagne, qui a du coup une sorte de qui a créé une sorte de communauté en Espagne autour de ce film intéressante, mais en France on n'a jamais eu l'occasion de le découvrir. Elle l'avait vu parce qu'elle était, elle est sinophone, mais c'est pas notre cas. Donc, ouais.
Et un film du coup d'une production chinoise.
Oui. C'est un film qui est chinois, oui, il me semble.
Et comment on explique qu'il arrive par exemple en Espagne, mais pas dans toute l'Europe finalement ?
Difficilement, franchement. Vu qu'on a assez vite abandonné l'idée de diffuser ce film, on sait pas, je pourrais pas vous en dire beaucoup, beaucoup plus.
Mais c'est vrai que c'est une problématique intéressante, en tout cas, la représentation des femmes au cinéma. Sur lequel nous on n'est pas assez calé, et puis c'est vrai que il y a quand même quelques grandes actrices en tout cas du cinéma chinois. Je pense à Michelle Yeoh, je pense à
Lucy Liu et à surtout Maggie Cheung.
Il y a aussi plus récemment il y a Zhang Ziyi. Après c'est plus des figures comme ça.
Puis on a aussi Jia Zhangke, qui est donc un des grands réalisateurs chinois, qui sort un film qui s'appelle Les Éternels, et qui ça sort cette année.
Ouais, c'était présenté au dernier festival de Cannes.
Et qui a comme personnage principal une femme, et c'est une petite révolution dans le cinéma.
C'est pareil du côté
chinois.
De la réalisation. Enfin, on s'était dit qu'on présenterait bien des films réalisés par des femmes, mais c'était vraiment.
Et on en a trouvé un. Difficile. C'est celui qu'on passe avec le Ciné Tambour le mardi. C'est un film hongkongais, qui date de 84, qui s'appelle Passeport pour l'enfer, réalisé par Han Hui.
Ouais, exactement.
C'est intéressant parce que finalement, ça doit être l'un des films les plus vieux.
Et voilà, c'est le deuxième film le plus vieux qu'on passe.
Après La Fureur de vaincre avec Bruce Lee. Mais carrément.
Oui, c'est assez étonnant, et c'est un film qui parle de la crise des boat people vietnamiens dans les années 80.
Et c'est facile d'être une femme réalisatrice en Chine.
On a eu beaucoup de, enfin, c'est les étudiants du tambour en fait qui ont trouvé ce film, et on le passe conjointement avec eux. Ouais. Très très dur à trouver, en tout cas à cette époque.
Et parmi les films de votre programmation, en fait, certains quand même ont été primés dans des festivals occidentaux. Je pense notamment au film An Elephant Still Sitting, primé à la Mostra de Venise. Comment vous expliquez en fait qu'il soit pourtant si peu connu du grand public ? Est-ce qu'il faut forcément être un cinéphile un peu chevronné pour aimer le cinéma asiatique?
Celui-ci, je pense que c'est un film quand même assez particulier. Donc là,
un film assez dur.
C'est un film quand même qui dure 3h50. Donc part là-dessus déjà. Et c'est un film très dur. Tout se passe en une journée. C'est un film un peu très misanthrope, très lent. Mais à la fois, moi je l'ai vu, j'étais soufflé parce que ça présente un portrait de la Chine, d'une Chine post-industrielle complètement brumeux, mais à la fois assez poétique parce que pour expliquer le titre, c'est l'histoire d'un ado comme ça dans une ville qui erre un peu et qui rêve un peu de partir dans l'autre ville, la ville voisine, où il y aurait, selon la légende, un éléphant comme ça qui reste assis et qui ne bouge plus depuis.
Bon, alors après, c'est un film qui n'est pas très connu, mais c'est normal, c'est qu'il vient de sortir en fait. Ouais. Il a été primé à Venise et à Berlin l'an dernier. Et il est sorti en France, à Paris, il me semble qu'il y a eu quelques séances,
ouais.
Mais assez peu effectivement, c'est pas facile à passer non plus un film de
3h50. Ouais. Ce sera la première fois qu'il passera sur Rennes.
C'est la première fois qu'il passe en Bretagne. Et on a eu l'occasion. En contact avec la maison de production et de diffusion du film.
Est-ce que pour l'apprécier justement ce film, il faut avoir une bonne culture cinéphile en fait ?
Je pense pas. Enfin, je pense qu'il faut avoir une sensibilité, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, pour aimer, je pense, l'art de manière générale, il faut être sensible. Mais je pense que tout le monde peut être sensible à ce genre d'art. C'est pas un cinéma difficilement accessible dans le sens où j'aurais tendance à dire que les images parlent d'elles-mêmes. Quoi. C'est-à-dire que si on sait apprécier. Ne serait-ce que être sensible face à une photo ou face à des images,
Mais c'est vrai que ça prend son temps, c'est très, ça peut paraître difficile d'accès, ça l'est pas forcément.
Ouais.
Et la programmation justement, elle compte 9 films, dont notamment Les Démons à ma porte ou encore Yi Yi d'Edward Yang. Vous faites tous les deux partie, Antoine et
Lucas.
Antoine et Lucas, pardon, du pôle programmation de l'association. Comment s'est passée la sélection des films ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu des débats entre vous, des choix difficiles pour mettre certains films de côté ou...
Ça a été conditionné par deux choses. C'est un, la difficulté de trouver les films. Enfin, d'abord découvrir les films, et ensuite la difficulté de les trouver.
Tous les films qu'on voulait en tout cas diffuser,
on a réussi à les passer. C'est une grande satisfaction.
On est super content de ça. Et non, il n'y a pas eu tant de débats dans le sens où tous les films qu'on passe, on était tous assez unanimes sur leur qualité. On avait tous envie de les passer. Et voilà, on voulait quand même que ce soit la programmation soit assez éclectique, que ce soit pas. C'est vrai que, comme on l'a dit, il y a quelques films comme celui-là, Elephant Still Sitting, qui sont assez longs et lent. Mais il y a aussi des films qui sont complètement à l'inverse de ça, notamment, tu disais... j'ai perdu le nom. Les démons à ma porte. Les démons à ma porte, c'est un film super rythmé, super drôle, dont on s'attend pas, notamment vraiment à... c'est un film qu'on...
Si on s'imagine pas trop ce que c'est que l'humour chinois, bah, on peut le découvrir par, par Les démons, ouais, à ma porte.
C'est vraiment
étonnant, c'est comme vraiment film. Ouais, ouais. C'est une découverte passionnante, ouais, qu'on a fait en faisant la programmation. Et puis de l'autre côté, on a aussi des films plus grand public qui sont bien connus, mais je sais pas si tant de gens l'ont vu que ça. C'est, vous avez passé un extrait, La fureur de vaincre avec, ouais, Bruce Lee, qui est vraiment incroyablement, schématique, cliché presque sur, c'est la, vrai, façon dont il représente ses personnages. D'un côté, le héros magnifique et son kung-fu, de l'autre côté, le japonais médiocre et son judo, tu vois. Et c'est vraiment... c'est plus grand public, c'est plus rigolo à voir.
Ouais. C'est presque jouissif de voilà, voir...
On était contents de redécouvrir ce film. Ouais.
C'est ça, exactement.
Justement, tu parlais des clichés. Pour rester un peu dans le cliché, est-ce que vous vous êtes senti obligé, en faisant un festival sur des films... des films chinois, Hong Kong, Taïwan, de mettre un film avec Bruce Lee, ou est-ce que...
Non, parce qu'en fait, c'était pas l'idée à la base. Ouais. Et puis, on s'est retrouvé avec un jour, le festival dure 6 jours, et on s'est retrouvé avec un jour sans film, et on s'est dit que c'était dommage quand même de faire une pause comme ça. On s'est mis en recherche d'un nouveau film. On a cherché d'abord avec Jackie Chan, et puis finalement, on s'est retrouvé un soir à re-regarder en fait, La fureur de vaincre, et à beaucoup apprécier. C'était vraiment... une bonne surprise. On s'attendait à tomber sur un film quand même assez mal fait, assez ouais, drôle et nanar, quoi, presque.
En fait,
on s'est dit que ça valait tout à fait le coup de le passer, quoi. C'était très agréable.
Ouais. Quand on voit par exemple à quel point Tarantino vénère certains, vénère Bruce Lee, mais aussi certains réalisateurs hongkongais comme Junito, on comprend pourquoi.
Ouais, ouais.
Alors, vous espérez aussi, avec ce festival, toucher des lieux et des publics où l'éducation du cinéma est quand même peu présente. Vous avez aussi mis en place un tarif unique à 4 euros. Est-ce que la volonté, en fait, d'avoir un festival accessible à tous, ça a été un leitmotiv, justement, à votre projet ?
Oui, complètement, complètement. Bah, c'est vrai que... Ouais...
On s'est posé la question d'un tarif étudiant et d'un tarif normal, mais finalement, à quoi bon ? 4 euros, c'est
surtout
ce qu'on trouverait, c'est moins cher que tout.
On crée aussi un pass week-end qui sera à 10 euros.
Pour 5 films.
Pour 5 films, donc ça ferait 2 euros le film, je pense que c'est pas...
C'est vrai que se déplacer pour voir un film chinois, c'est une action, c'est déjà assez engageant, vous, ouais, voyez. Et on s'est dit que finalement, il fallait peut-être... encourager cette décision, et donc voilà, on s'est dit ça.
Oui,
et on a eu le soutien de plusieurs organismes qui nous permettent de pratiquer, ouais, des prix assez bas, voilà.
Puis on est une association, quoi. On cherche pas à faire du
bénéfice, pas de profit.
Donc non, complètement, c'est l'idée aussi de...
Non, mais c'est pour ça que j'avais été étonné. Par exemple, justement, il y a un film qui est rediffusé au cinéma Pathé Gaumont. Pour avoir l'accord de leur part de faire des entrées à 4 euros, c'est que justement derrière il doit y avoir un projet qui est solide de votre part.
C'était un peu la cerise sur le gâteau, en fait. On s'est retrouvé avec on n'avait pas de séance et le vendredi soir, et puis on s'est aperçu que notre trésorerie était pour l'instant assez bonne. Et est venue la question, est-ce qu'on passerait pas au Gaumont ? C'est quand même luxe, ouais. ça aurait de la gueule. Et le trésorier a consenti. Et donc on est parti là-dessus. Voilà. Et effectivement, oui, c'est vrai que... Mais ça permettait aussi de donner une image un peu plus importante. Voilà. C'est ça qui nous a plu.
Et donc parmi les 9 films présentés, vous le disiez, vous avez eu tous les films que vous souhaitiez à l'intérieur de la programmation. Est-ce qu'il y en a eu un qui est vrai ? Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment votre coup de cœur parmi cette programmation ?
Moi, mon coup de cœur, c'est donc Les démons à ma porte, dont on a parlé, de Jiang Wen.
C'est sur la révolution japonaise, c'est ça ?
C'est sur la fin de l'occupation japonaise en mer de Chine, ouais. Et c'est un film, certes en noir et blanc, certes plus de 2 heures, mais bourré d'humour, et puis qui parle vraiment de choses importantes. Et effectivement, on parlait de ce manque de sujets très politiques dans le cinéma chinois. Là, finalement, ça en esquisse quelques-uns. C'est pas encore très marqué, mais ça se permet des choses auxquelles je ne m'attendais pas, moi.
Ouais. Moi, mon film coup de cœur, ce serait peut-être Yi, que je trouve vraiment incroyable. C'est un film, ça fait super pompeux de dire ça, mais je dirais que c'est un film sur la vie. C'est un peu l'histoire d'une famille, donc il y a le père, la fille et le fils, et chacun le fils a 5 ans, la fille a 13 ans à peu près. Donc le fils découvre un peu la ville, les mensonges, tout ça. La fille découvre les premiers amours. Et le père est un peu désillusionné. Il perd son travail. Voilà. Il retrouve la femme qu'il a aimée il y a 20 ans. Enfin, tout est juste, tout est vivant.
Et c'est le film testament de... Ouais. D'Edward Young qui meurt quelques jours après avoir fini son film.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà des idées pour la prochaine édition? Car je rappelle, c'est seulement la première cette année.
Bah, on n'a pas bien d'idées, mais en tout cas, le concept, c'est de parler d'un autre pays dans la région asiatique. Ça s'appelle Un printemps en Asie, mais l'édition s'appelle Cinématographe. Donc l'an prochain, ça parlera d'un autre pays, d'une autre région, le Japon, la Corée, l'Indonésie, je ne sais pas.
Même l'Iran. Ou...
Mais a priori, ce ne sera pas nous qui nous en occuperons, puisqu'on laisse la main à des étudiants de la promotion prochaine de Sciences Po Rennes.
Ouais, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait ça dans le cadre d'un module projet, parce que là, on est en Master 1 Culture et Industrie Créative à Sciences Po Rennes. Et voilà, et en fait, chaque année, les modules projet sont repris par les nouvelles promotions qui arrivent. Et donc voilà, le but.
Mais on serait content de leur donner une bonne édition pour ensuite faire partir des bases.
Ça nous ferait super plaisir aussi l'année prochaine de voir que ça continue et que ça fonctionne.
Ok, c'est bien noté. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, le festival Un Printemps en Asie aura lieu du 13 au 19 mars. Toutes les informations du coup sont sur le site unprintemptsenasie.com. Oui. Et nous on se retrouve avec En attendant Godard. On va continuer à parler de cinéma. Et votre quotidienne du coup de Syllab, c'est terminé. Merci à Claire pour la technique. Et on se retrouve du coup demain pour toujours plus d'inattendus, même heure, même zone.
Bonne soirée sur Syllab.